te faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. C'est la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent l'emportera. Génétique en monouillère, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis. Le vent l'emportera.
Guten Morgen! Guten Morgen, Hamburg! Good morning, Loic! I still can't speak any French, so and not so perfect English, but I'll do my best to guide you through the following show. Hallo Hamburg! Ihr hört Radias Radio in Solidarität mit den Angeklagten der sogenannten Elbchaussee-Prozesses hier auf 93,0 auf FSK. Wie jeden Morgen um 7 Uhr, jeden Morgen natürlich nur, wenn es einen Prozesstag gibt, was heute der Fall ist. Ja, also geht nach der Sendung mal zum Gericht hin. Der Prozess ist leider nicht öffentlich. Als Angriff auf die Solidaritätsbewegung hat die Richterin die Öffentlichkeit ausgeschlossen, die Türen geschlossen. Aber es gibt eine Kundgebung davor, da könnt ihr euch auch informieren, vernetzen. Habt ihr erst später Zeit, lohnt es sich auch zum Gericht nach Altona zu gehen, denn dort findet ein anderer G20-Prozess statt. Ab 13 Uhr ist dort Kundgebung und auch Prozess zu besuchen. Zeigt eure Solidarität mit den Angeklagten in den G20-Schauprozessen. Ja, was erwartet euch in der kommenden Sendung? Natürlich einige Grüße. Es wird eine kurze Zusammenfassung geben, was in Hamburg so los war in der letzten Zeit. Es gibt einen Beitrag auf Französisch zu den Gelbwesten-Protesten. Und der Crime Think Podcast ist aus dem Nichts wieder auferstanden. Die Ex-Worker sendet wieder, hat angekündigt, ein Audiobook zu Border-Regime zu machen. Ja, da haben wir euch auch ein bisschen was rausgeklaut. Könnt ihr schon mal reinhören. Das Ganze hört ihr sonst auch auf der Seite crimethink.com/podcast. Good morning, Loic. Hey, in the next hour, you hear a feature about the Yellow Vests in French. There will be some greetings. There will be a short summary of what happened in Hamburg during the last weeks in French and in German. And of course, a lot of music. And there will be a short feature from the upcoming Crime Think podcast. They do their show again. It was like dead for years, and yeah, now they will do an audiobook and did some stuff before. And if there's a place in the show, which I believe there will be a little of this to hear. Okay, enjoy.
For the life every day and the people we got. For the hope that we have and the freedom we love. For the life every day and the people we got. For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут.
Das hier ist für meine Leute in Aktion, die sich umsehen und dort starten, wo sie wohnen. Ob in Rostock oder Kiew oder Wasserf oder Zürich oder Oslo oder Warschau oder Rom. Die NPD fährt von Deutschland nach Tschechien, um mit der DSSS dort zu hetzen. Die dramatische Lage der Roma scheint sowas von normal im Ungarn von Orban. Wo willst du leben zwischen Sarrazin und Co., Marine Le Pen und wilder Strache NSU? Zwischen Breivik oder Bossi oder bist du auf einer Gay Pride zwischen Nazis, Nachbarn und den Bullen? Das geht raus an meine Menschen, die vor Ort sind, die dort leben mit den Ängsten ihrer Hoffnung. Weil uns die Geschichte warnt, mache ich mich stark für das, was wir teilen. No passeranno.
For the life every day and the people we got.
No passeranno, no passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут, они не пройдут.
For the life every day and the people we got.
No passeranno, no passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Desaperassum, desaperassum.
Non c'è crisi di coscienza perché parla l'esperienza. La merda resta merda anche se muta l'apparenza. Cambia sembianza, la stessa sostanza. Siete il braccio armato quando il potere incalza. Ti puoi riproporre alla moda, ma anche se cambi grafica è il passato che ti inchioda. I vostri bei tempi, una strage di innocenti. Per questo vi abbiamo schifati da quando siete nati. Ora non c'è niente che ti assista. Esplode per le strade la rabbia antifascista. E l'unico motivo, se sei ancora presente, è che tutto può cambiare, ma un infame resta sempre. La vostra scomparsa, la nostra missione. Antifascisti per la rivoluzione. Internazionale militante fatto per la gente.
For the life every day and the people we got.
Non passeranno, non passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут, они не пройдут.
For the life every day and the people we got.
Non passeranno, non passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Desaperassum, desaperassum.
Non passeranno, grito vigente en nuestros días. Solo que hoy la barricada enemiga se amplía. Todos en tu contra si tú luchas por la gracia. Porque hoy el fascismo se llama democracia. Capitalismo tiene varias herramientas. Democracia o dictadura, usa la que le convenga. Militares, policías, diputados. Recuerda, Adolf Hitler en las urnas fue votado. En tiempos convulsos el lenguaje populista gana afiliación. Hablan de marginación, culpan a la inmigración. Unos con traje tienen escaño en las cortes. Otros en la calle usados de fuerzas de choque. Y una muerte más en manos de los fascistas. Ni en la calle, ni en los CIE, ni en las comisarías. Racismo y fascismo callejero o institucional. Volvemos a gritar, no pasarán.
For the life every day and the people we got.
Non passeranno, non passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут, они не пройдут.
For the life every day and the people we got.
Non passeran, non passeran.
Desaperassum,
desaperassum.
Con fisica was draußen so los ist. Anarchistinnen und andere Linksradikale sind sich oft nicht sicher, was sie von den Gelbwesten halten sollen. Natürlich ist eine Revolte, die sich so massiv und ausdauernd dem Neoliberalismus die Hölle heiß macht und die zudem keine Führer hat, super. Auf der anderen Seite werden aber auch schon mal Nationalfahnen geschwenkt und Faschisten innerhalb der Demonstration gesehen. Hier jetzt ein Bericht von der Demo vom 16. März in Paris, geschrieben von den Genossinnen der ACTA. Alors, suivre un texte du, des camarades du ACTA le 16 mars du Paris. J'essaie de dire ce texte parce que c'est très compliqué pour moi, mais j'espère tu peux suivre. Paris est à nous. Jamais les Champs-Élysées n'avant bien aussi bien porté leur surnom de plus belle avenue du monde. Les tombes d'une journée... La terre, symbole de luxe et de la marchandise, est devenue l'incarnation d'une puissance commune retrouvée. Certes, le dispositif a réussi à contenir l'essentiel du désordre au niveau de champs et de ses alentours immédiates, malgré quelques tentatives plus ou moins réussies d'excursion sauvage. L'acte 1800 a gagné en intensité et qu'il a perdu en extension géographique. Mais il suffisait de voir les gilets jaunes scander révolution tout au long à l'après-midi. Il suffisait de voir la foule détachée plus soulever immense plaque en métal qui protégeait la boutique Bulgarie et la portait au bout de bras pour changer la police en chantant « On a gagné, on a gagné ». Il suffisait de voir les banderoles s'approcher à quelques mètres de l'Arc de Triomphe, les DAR reculer et prendre la fuite derrière immeuble Louis Vuitton face au assaut des manifestants. Bref, il suffisait d'y être pour comprendre que malgré les déséquilibres évident du rapport de force circulaire, une détermination folle, un sentiment de confiance diffusé. Les gens n'avaient plus peur. En vérité, ce qui importe dans une émeute n'est pas la qualité objective des dégâts matériels. Les nombres de vitrines brisées, des cailloux jetés ou des voitures calcinées. Non, ce qui compte est qualitatif. C'est une énergie collective déployée et ce que ce déploiement induit quand à la transformation des consciences. Non, pas les pertes statistiques infligées à l'ennemi, mais la force politique et idéologique libérée au sein du peuple. Car si médias et gouvernements insistent à tel point et de façon si obsessionnelle sur les 1500 ultra-violentes qui auront organisé la violence, c'est pour dissimuler le fait moins avouable qu'en réalité, samedi 16 mars, tout le monde, tous ceux qui étaient présents sur les champs et autour ont participé d'une manière et d'une autre à l'émeute. Oh, je ne comprends pas ce mot. Contrairement à ce que l'on pouvait observer lors des premières attaches du mouvement, nul n'a songé hier à s'interposer devant les pillages de magasins, la construction des boutiques de luxe ou les affrontements avec la police. au contraire, chaque éclat, chaque coupe de marteau a s'accompagné d'acclamation enthousiastique. Pour les milliers de personnes présentées, tout cela sembla parfaitement illogique, pour ainsi dire normal. Comme les résumés de journal de monde frappés d'une lucidité soudaine, les premières semaines de mouvement, il y avait toujours des manifestantes pour protéger contre les pileurs. Cette fois, rien. Et ce qui fait ces horreurs au gouvernement, l'impossibilité évidente d'introduire une quelconque division à l'intérieur des substantivités en prise avec l'événement. Horreur de voir de paisibles pères et mères de femmes se prendre une photo tour sourire au milieu de l'avenue, assis sur les canapés en velours ou au fond fouque qui crame quelques mètres plus loin, au lieu de se dissocier des casseurs, comme Constané les y encourageait à longueur de discours. Mais tous ces discours sont vains, inaudibles. L'arrogance du pouvoir et de la brutalité de sa police ont atteint de tels degrés qu'il n'y a plus de place pour la dissociation. C'est une preuve de plus de ce que tout soulèvement populaire embranle ceux qui participent, fait évoluer leurs convictions et leurs certitudes au content de la pratique. Aujourd'hui, le pacifisme de principe de la naïveté et l'égard de l'appareil répressif de l'État ont presque totalement disparu des cortèges de gilets jaunes. Avis à ceux qui, il y a quelques semaines encore, prétendaient pouvoir les ranger dans tel ou tel casse, leur assigner telle ou telle identité idéologique intrinsèque. Mais qui est le premier responsable de cette radicalisation progressive des gilets jaunes? Qui a fait en sorte de les convaincre que seul antagonisme payé, sinon le gouvernement lui-même, en cédant début décembre, en lâchant après 3 semaines l'insurrection, ce que le mouvement social traditionnel n'avait pas été capable d'obtenir en plusieurs décennies. Macron a confirmé, si besoin était, la leçon suivante. L'État n'entend des besoins populaires que lorsqu'il y est contraint, que lorsque, à l'être, il ne peut plus faire autrement. Il ne peut plus faire autrement. Les gilets jaunes l'ont parfaitement compris. On a pris conscience qu'il n'y a que quand ça casse qu'on est entendu. Johnny, 37 ans, directeur d'un centre de loisirs, c'est génial que ça casse, parce que la bourgeoisie est tellement à l'abri dans sa boule qu'il faut qu'elle ait peur physiquement pour sa sécurité, pour qu'il lâche. Anne, factrice toulousaine. Que le mouvement puisse de nouveau présenter d'un tel niveau de conflictualité après 18 semaines, l'existante est déjà en soi un fait remarquable. Mais l'ultimatum du 16 mars ne visait pas à se contenter d'un dernier chant du signe, aussi flamboyant soit-il, avant liquidisation. Rien ne saurait être plus dangereux que de se satisfaire de la journée de samedi. Elle n'a de sens qu'à faire office de trampoline, de bifurcation. Il s'agit de se servir de cette date pour enclencher une nouvelle phase, construire un printemps de lutte. Les fortes immobilisations parallèles pour le climat et contre les violences policières confirment que l'enjeu d'une coagulation est brûlant, car les meutes, même répétées, n'est pas à elle seule un moyen d'action suffisante. Elle a besoin de s'articuler à une relance de blocage économique et à la poursuite d'un travail de clarification politique et stratégique. Éric Drouet l'a reconnu dès samedi soir. Démarche encadrée n'ont servi à rien. Seuls les débordements continus des cadres imposés et les sabotages disséminés de l'économie elles-mêmes sont susceptibles de mener le mouvement à la victoire. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Les premiers éléments de la riposte répressive laissent entrever ce que signifiera pour tous et l'écrasement du mouvement en cours. C'est ça. C'était trop compliqué pour moi. Alors...
J'acceptais par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça, tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disons entrecoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. S'ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Ton invitation, j'ai dû me courir dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Bonjour à tous et à toutes. Au nom du comité central de la Nouvelle Jeunesse Démocratique, je salue toutes les fondations et partis antifascistes et anti-impérialistes qui sont venus de partout de l'Europe et du monde entier pour manifester contre le sommet du G20. Les manifestations qui ont eu lieu à Hambourg 11 juin 2017 sous le nom de sommet du G20 était particulièrement importante pour l'attitude légitime des jeunes à l'égard des politiques impérialistes. Ce sommet, tout en révélant les contradictions des impérialistes entre eux, a déclaré l'attitude légitime et dynamique des opprimés contre l'impérialisme. La campagne de chasse à l'homme de l'État allemand, qui a eu lieu avant le G20 et jusqu'à présent, est un moyen formidable de réprimer la lutte anti-impérialisme de la jeunesse. Même après 18 mois, des centaines de personnes appartenant aux services de renseignement et de police allemands ont été à la chasse aux antifascistes. Au stade actuel, donc 5 jeunes ont été jugés et 3 d'entre eux ont été placés en détention à Hambourg, même si les experts juridiques les plus ordinaires affirment que l'affaire est en deçà des normes légales. Le moyen le plus fondamental d'insister sur cette affaire était de contrôler la lutte légitime des jeunes et de s'assurer qu'aucune voix ne soit exprimée contre les futures politiques impérialistes. Donc on constate que les mesures prises par la police dans le processus du G20 ont été prises pour armer la police en fait. Hein, donc lors des manifestations de 2017, le gouvernement de Hambourg a lancé un appel public en menaçant, hein, et menaçant l'existence de risques vitaux dans le cas d'une action sur les itinéraires des représentants des pays du G20. L'affaire du G20 est un cas exemplaire en fait, même dans les normes juridiques bourgeoises, pour montrer que l'État allemand insiste sur l'illégalité. Il semble que l'État allemand, qui ne peut pas fermer la rue aux jeunes, viole les lois de ses propres autorités judiciaires, met en œuvre une politique d'ouverture d'esprit et s'abstient de faire de Loïc un prisonnier. Cependant, face au soutien des jeunes pour les prisonniers du G20, l'État allemand veut garder l'affaire en dehors de la société en appliquant la loi de moins de 18 ans, donc ce qui veut dire la loi des mineurs en fait. Hein. Le processus du G20 dans son ensemble montre que tout en luttant contre l'impérialisme, le fascisme, le racisme et l'homophobie, des mois ou des années plus tard, les pratiques de détention et d'intimidation dues à une activité peuvent être exposées. Lors d'une marche autorisée ou bien lors d'une protestation démocratique la plus élémentaire, l'accumulation des milliers de policiers permet de criminaliser des groupes de jeunes antifascistes et anti-impérialistes. L'application de la politique de criminalisation et de manipulation à l'époque où la rue ne peut pas être interdite reflète la forme la plus classique des méthodes dominantes aujourd'hui. Donc, l'objectif principal des États européens après le G20 était d'agir pour fermer les institutions de gauche, anarchistes et démocratiques. Mais cependant, ce n'est pas un succès à cause de l'opposition sociale et de la lutte jeunesse en fait. Donc, Rothilfe, ce qui veut dire aide rouge en français, donc c'est secours rouge, l'une des réalisations les plus importantes de la lutte antifasciste et anti-impérialiste, est devenue la prochaine cible de l'État allemand. Donc, Rothilfe représente une force organisée importante qui s'oppose à l'oppression de l'État, informe la jeunesse dans le contexte des droits et de s'efforce de défendre les droits légitimes quoi. Donc les menaces contre l'aide rouge sont en train de projeter, donc ce qui facilitera l'application des politiques impérialistes. Donc pour finir, que l'État allemand sache, tous les prisonniers du G20 sont pas seuls. On ne laissera jamais tomber cette affaire. On sera toujours présent dans les rues qui ont été voulues fermées aux jeunes. Donc, vive la solidarité, vive la lutte des jeunes. Non à l'État police. Et on dit notre résistance contre votre répression. Que l'État allemand libère immédiatement Loïc. Hein.
Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы факели, горы факели, горы по колено, если держишь шаг. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, волны по колено, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот. Вспоминая июль, 13-й год. Дикая поездка, южный берег, закон. Мы по серпантину нарезаем, как кони, ты слышишь? Время без забот. Среди белых скал наш секретный порог. И в эту одиссею прыгну прямо на дно. Со скалы надут и набираю разгон. И волны по коленям, волны по коленям, волны по коленям закрутил. Просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по коленям, волны по коленям, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот. Не переживай, не переживай только. Что-то упустили, наверстаем потом. Там, где не пройти, пролетим орлом. Ты слышишь? Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол. И хоть пока бьет пар под загнутый капот, я, братик, уверен, скоро нам повезет. Ведь горы пакели, горы пакели, горы пакели на тем, кто держит шаг. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по коленям, волны по коленям, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам.
Passé à Hambourg. Nous avons parcouru Intermedia, les médias sociaux et les journaux pour toi. Un bref mise à jour suite à ce qui s'est passé ces 14 derniers jours à l'extérieur des murs de Hambourg en était collecté. L'Antifa Altona East, un jeune quartier d'Antifa qui vient de fêter son premier anniversaire, a été attaqué par le parti d'extrême droite AFD. Heureusement, ça s'est retourné contre eux. Que s'est-il passé ? L'AFD a ouvert un portail de dénonciation et de diffamation sur lequel des enseignants progressistes et antifascistes et leurs efforts dans les écoles ont été rapportés. À l'école de Idaire, des autocollants de l'Antifa Altonaïste et une journée de ACAB ont été dénoncés. L'administration scolaire s'est rendue rapidement sur place et a laissé, en tant qu'assistante à la réalisation de l'AFD, retirer ces autocollants. En conséquence, les élèves d'autres écoles, les parents et les antifascistes de tout Hambourg ont fait preuve de solidarité. Quelques jours après l'annonce, il y a eu une manifestation solidaire avec 3000 élèves et plus de 20 écoles ont déclaré leur solidarité. L'Antifa altonaïste est politiquement très largement positionnée. Entre autres choses, ils ont également organisé une démonstration préparative pour la grande manifestation du vendredi pour l'avenir, qui a aussi lieu tous les vendredis également à Hambourg. Le changement climatique est en train d'être combattu, mais il y a aussi de nombreux groupes qui font campagne pour la justice climatique. Vendredi pour l'avenir est un mouvement mondial dans de nombreuses villes dont des étudiants font grève chaque vendredi pour le climat, également à Hambourg. La semaine dernière, il y avait une action solidaire devant le tribunal d'arrondissement Hambourg-Bambeck où une vitrine s'est cassée. Un rapport correspondant est disponible sur Indymedia. Ici, sous le titre « Liberté et bonheur pour tous les prisonniers du G20 », on peut lire « En signe de solidarité et de salutation à Loïc, à la prison de Holzenglasis, nous avons visité le tribunal de grande instance de Hambourg-Bambeck dans la nuit du 28 au 29 mars. Et suivant encore, chaque partie des autorités répressives de Hambourg est la cible de notre colère contre les conditions actuelles et la formation autoritaire de la société. Pas de repos pour les process du G20. Soutenez les prisonniers. » En plus, le militant brémois Momodou, membre d'Alliance Ensemble nous sommes Brême, est tombé sur un contrôle raciste à Hambourg et a ensuite été déplacé en détention provisoire. Jeudi dernier, malgré les protestations à l'aéroport de Hambourg, il a été expulsé avec un vol opéré par Eurowings. Auparavant, il y avait eu de nombreuses manifestations à Brême et aussi beaucoup dans la presse. Les contrôles et les arrestations racistes font partie de la vie quotidienne à Hambourg.
Was ging ab in Hamburg? Wir haben in die Media, die sozialen Medien und die Zeitungen für dich durchsucht, Loik. So, es folgt ein kurzes Update, was die letzten 14 Tage außerhalb der Mauern in Hamburg so passiert ist. Die Antifa Altona Ost, eine junge Stadtteil-Antifa, die gerade ihren einjährigen Geburtstag feierte, wurde von der rechtsradikalen Partei AfD angegriffen. Glücklicherweise ging das nach hinten los. Was ist passiert? Die AfD hat ein Denunziations- und Hetzportal eröffnet, auf dem fortschrittliche und antifaschistische LehrerInnen und Bestrebungen an Schulen gemeldet werden sollen. An der Ida-Ehre-Schule wurden Aufkleber der Antifa Altona Ost und ein ACAB-Tag angeprangert. Die Schulbehörde war schnell zur Stelle und ließ, als Erfüllungsgehilfin der AfD, die Aufkleber abholen. In Folge solidarisierten sich SchülerInnen anderer Schulen, Eltern und AntifaschistInnen aus ganz Hamburg. Einige Tage nach Bekanntwerden gab es eine Soli-Demo mit über 3000 SchülerInnen und es haben sich über 20 Schulen solidarisch erklärt. Die Antifa Altona Ost ist dabei politisch breit aufgestellt. Unter anderem organisierte sie auch eine Zubringer-Demo zur großen Friday for Future-Demo. Jeden Freitag findet diese auch in Hamburg statt. Es geht gegen den Klimawandel. Immer wieder sind aber auch Gruppen zu hören, die sich für Klimagerechtigkeit stark machen. Friday for Future ist eine weltweite Bewegung. In vielen Städten streiken SchülerInnen jeden Freitag für das Klima, so auch in Hamburg. Letzte Woche gab es eine Soli-Aktion, bei der eine Scheibe des Amtsgerichts Hamburg-Barmbek zu Bruch ging. Bei Indymedia findet sich ein entsprechender Bericht. Hier heißt es unter der Überschrift »Freiheit und Glück für alle G20-Gefangenen« Als solidarischen Gruß an Loïc im Knast Holzenglasis und Zeichen unserer Verbundenheit haben wir in der Nacht vom 28. auf den 29.03. das Amtsgericht Hamburg-Barmbek besucht. Und weiter? Jeder Teil der Hamburger Repressionsbehörden ist Ziel unserer Wut auf die herrschenden Verhältnisse und die autoritäre Formierung der Gesellschaft. Keine Ruhe den G20-Schauprozessen, unterstützt die Gefangenen, Anna und Arthur halten das Maul. Der Bremer Aktivist Momodou aus dem Bündnis Together We Are Bremen ist in Hamburg in eine rassistische Kontrolle geraten und wurde danach in Abschiebehaft genommen. Vergangenen Donnerstag wurde er dann, trotz Protesten am Hamburger Flughafen mit einem Flug, durchgeführt von Eurowings, abgeschoben. Zuvor gab es schon viele Proteste in Bremen und einiges in der Presse. Rassistische Kontrollen und Festnahmen sind in Hamburg Alltag.
Du سوار شب شد و ما و یاد و خاطر فندک و سیگار و کف دستی چپ پر یاد مهربانی مادر اعتماد و باور فرشته خانه دلسوزی خواهر اخ متخمی پدر و قصه های سفر پشت سر این برادر و نبوده چه خطر کاش مادر بودی بوی ودکا مپرید آبروی اولاد مادر کده پیش خرید گیسوهای سفید شد و دلم ملرزه حالا بچه های پشت کدام مرزه بین ما و توست یک دریای خونخار از طفل سیاسر و جنین کده کشتار زیر موج رویاه ها دف شدن خیلی یا جدا ماندن از هم مجنون و لیلی یا اینج جنگ نیسته که فیر شد و مرمی فکرت میشه پر از گل و خشک میشه در سردی با چشای نیمه باز با ستانه هم نشین پشتی عرفاز خنده تلخی و زده کمین سایه ها ساکت کسی پشتم نیست بغز کده گلوی ما آسمانم ابریست انگوشتی وسط مالی غومای ناکست کاروان دوز بود و ساریبانم مستیم است بین غم و فقری وطن کودکی ما جامنده نمیتوانم این کار کنم نمیشه و دید کنده انقدر کلان شدیم خورد سر دسخف شکستای دیروز امروز شده دنف صدای لالایی من رقصی برگسته در باد بذر بشون وقتی که بوریم یه متری در خواد هر شب و قصه ما رسیدیم یه چشم خیست باهای مرد سفر جز خدا همراهی نیست رفتن و کندن دل خنده های بدلیل پشت سرم خاطره روبروی ما دیوار چین هر شب و قصه ما رسیدیم یه چشم خیست باهای مرد سفر جز خدا همراهی نیست رفتن و کندن دل خنده های بدلیل پشت سرم خاطره روبروی ما دیوار چین هرچی میرم جلوتر گوشا میشه سنگی تر لحظه ایم سخت میشه رفیق میشه دست خر یک صدامه یک کاتکو یک صدامه یک حرکت زنده بود و جوانی که زندگی را رد داد خواسته ها باخت ها آزادی و انقلاب قلب و مغز مریض قایم پشت نقاب یخ زده رابطه سلام علیک دزور رد میشیم از هم خود زدیم دکور گوش نگرفته خود رئیس تا سر تشنه دور از جان لوتیان به ناموسی با چشمه به ادبی زیاده از این چیزا بگذریم دل شکسته شاچه و راضی باشه اسکریم یک لبخندی دوباره قلب من باری امید میشه یک کوهی الماس از تو آینه دید آسمان و زمین یخ و باد و باران خشکی کبیر تا اقیانوس آرام ببین دقیق کجایی کدام سو داری میری مقصد ما یک جا هست مقصد میگم کج نری دروغ بوده همیشه انتهای قصه ها کلاغه رسید خانه با قدرتی اجده ها هر شب و قصه ما رسیدیم در چشم خیست باهای مردی سفر جز خدا همراهی نیست رفتن و کندن دل خنده های بدلیل پشت سرم خاطره روبروی ما دیوار چین هر شب و قصه ما رسیدیم در چشم خیست باهای مردی سفر جز خدا همراهی نیست رفتن و کندن دل خنده های بدلیل پشت سرم خاطره روبروی ما دیوار چین
Welcome to The X Worker. Could you introduce yourself and tell us a little bit about how you got involved with No More Deaths?
Sure. My name is Maria. I've been volunteering with No More Deaths for over a decade, and I initially came down 2006 and 2007 to the border, some work on the US-Mexico, both sides, and have been an active participant in the group ever since.
So we're about to be releasing an audiobook of No Wall They Can Build, which goes into a lot of depth, both with analysis about the border regime and how it works in terms of global migration from south to north and the flow of people, resources, capital, etc., across these borders, and also with a lot of personal stories about life doing solidarity work in the desert. So the book was written over a period of many years, but mostly during the Obama era, when there was a president who a lot of people, accurately or not, thought was much more of a friend to immigrants and immigrant communities. Now that we're living in the Trump era, Trump's policies about immigration and the border are obviously one of the most high-profile things that radicals tend to react against. So to get started with our conversation about releasing this book, I wanted to see if you could tell us a little bit about what continuities and what differences have existed since the time that this was written, since the Obama era through to the Trump era.
Sure. I think if you look at the differences between Obama and Trump managing of migration and enforcement, it's really just one of vitriol in discourse. But if you actually look at the infrastructural policies, I think there's a lot more continuity between the Obama era and the Trump era than most people really acknowledge. I would say that Trump is only able to enforce a much more xenophobic and violent and wide-reaching immigration enforcement system because Obama has infrastructurally put in place both the physical infrastructure and the legal infrastructure for Trump to be able to extend the mandates and dictates of Border Patrol and ICE in our current era. So I don't actually think there's that much difference between them. It's kind of a soft versus hard control where people get taken into custody and what manner and what kinds of violence they experience at the hands of the state. And then kind of the numbers. I think Obama played a game that had to do with differentiating between deserving and non-deserving categories of migration. Trump simply shifted those categories. I don't actually think the game that Trump is playing is very different. It's just about how criminality has been employed against undocumented communities in varying ways. So the difference is really mostly in rhetoric, you know, which does have a difference. And then also, you know, there's been a lot of coverage in the news lately about the undocumented minors crisis and taking children into custody. And I think it's really important to point out that that was policy that was put in place under the Obama administration, and facilities in Pennsylvania and in Texas have existed to incarcerate minors, and that the zero tolerance policy under Trump would not have been possible just logistically without the infrastructural investments of the Obama era.
Speaking of that difference you mentioned between hard and soft power, I've been thinking about that in terms of making sense of the crisis going on in national politics around Trump's effort to force the construction of a border wall, and the way that Democrats are positioning themselves as if they're resisting Trump and talking about something totally different, where if you actually look at the proposal, it still involves more militarization, more funding for border enforcement, things like that, but with the absence of, I guess, just a physical wall. So right. Given that this has been such a major national controversy, I'm wondering if you could tell us a little bit about how that's played out on the border itself, how folks in Arizona are experiencing it, how they're responding to it, what impact, if any, it's had on migrants themselves, and what kind of responses you're seeing to that rhetoric along the border.
Sure. So I would say that, you know, the damage that an increasing militarized border, the human toll, has been lived. I mean, the urban centers were sealed in the 90s and traffic was funneled out into remote areas. It really was a gift to the cartels as far as consolidating human trafficking. And so correctly, you're highlighting that the difference between a Republican or Democratic approach to border enforcement just has to do with physical infrastructure, which Trump is obsessed with, a actual quote unquote wall, versus other kinds of enforcement that the Democrats are more than happy to fund. And I think it's really important to remember that there have been studies done that correlate border militarization and infrastructure and its effect on found remains. And we do find with an increase in militarization, we find an increase in people dying crossing. So that is one of the primary effects that it has on people trying to cross through the borderlands, is any amount of enforcement and militarization and funding for military and honestly paramilitary infrastructure on the border does concretely lead to loss of life. And it's been kind of Kafkaesque to hear Trump and the Republicans utilize this verbiage of there being a crisis on the border for their own ends in order, honestly, to create more crisis on the border, because, you know, there is a crisis on the border. There's a crisis of death and disappearance, and there's been a lot of lives lost and families affected by missing loved ones. But the crisis is one that is being created by Border Patrol, by ICE, by the state as an enforcer. That is who is enacting violence on the border. That is where the real crisis lies. And it is one that isn't just unfolding in the desert. It's happening at detention facilities with conditions that are subhuman. And so I think that it's important to kind of try and check the really uncritical dialogue that people are trying to have about the border and to understand where the sources of violence are really coming from. And I would say by and large, they are coming from the state. And I think as far as what people are trying to do to address that, you know, we're here, we've been doing the same work that we've been doing for the last 15 years, albeit under a heightened environment of surveillance and repression. But, you know, people are going to be continuing to do what they've always done, which is to help other people on the borderlands and to reach out in solidarity to directly affected communities. So we'll see, you know, at the end of the day, the amount of money that is appropriated or misappropriated to increase border militarization is a problem, needs to be resisted, and does concretely lead to death and disappearance.
You mentioned the increasing climate of surveillance and repression going on with No More Deaths in particular. I know that one of the things that y'all have been dealing with there has been these legal cases against some of your volunteers, and there's been some developments in that in recent weeks and months. So I'm wondering if you can start off giving a little bit of background about the arrests and the charges, the first wave of trials, and then what's coming up in the weeks and months to come.
Sure. So we're about halfway through our process, our trial process for our volunteers. The only outstanding defendant now is Scott Warren. He's facing a misdemeanor and a felony, and the felony is related to charges of conspiracy and harboring. And we have finished with a series of misdemeanor trials that had to do with putting water out on the Cabeza Prieta National Wildlife Refuge. So we've been having discussions and conflict with land managers about accessing these really remote areas where we put water. And one of them is Cabeza Prieta, which is a national park. And in order to cross in this extremely, extremely hot area, people have to walk across a bombing range. And Cabeza Prieta is the wildlife refuge where we put out water. It's the closest area we have access to in order to provide water to folks who are crossing in that area. So the charges that we were dealing with had to do with driving restricted roads. Basically, the wildlife land managers changed their permit to explicitly forbid humanitarian aid when that had not been a previous policy, and then pursued these cases, harassed our group, and then they were definitely referred for prosecution. So the government has been prosecuting humanitarian aid volunteers for putting water out while largely ignoring the death and disappearances that are happening in these areas. And these are, you know, the more extreme, the more remote, and the more fatal areas where we work. So I think what has been shown in both the misdemeanor and the felony case is the level of collusion between different government agencies to surveil our organization in order to interfere and intimidate and try to stop the humanitarian aid work that we do. And then as we've been going to trial, we have been finding this counter narrative that's really hard to push against in court, that Border Patrol is somehow also providing humanitarian aid and that there's somehow a humanitarian component to their mission of enforcement. So one of the arguments that we had during the last trial, the government was saying that there are these beacons that get put out on Cabeza. There's not very many of them. And that somehow pushing a button in a very remote area where there is no water that will lead to someone's incarceration and referral into the deportation and immigration detention facility is somehow humanitarian. And so, you know, they're saying, oh, we don't need to put water out because there's beacons for folks who are lost. And so it's just been challenging to try to push against these very recuperative and bizarre narratives that somehow an agency that is a paramilitary agency by their own admission somehow has a humanitarian role to play in this scenario. And this is, of course, a posit that is widely discredited internationally. Most aid organizations are very, very clear that you must separate the provision of humanitarian aid in low-intensity war zones from any groups that are actively militarizing or enacting violence in those areas. And I would say that Border Patrol definitely fits that definition.
So what can folks do to show solidarity with the people who are still facing legal charges as a result of their humanitarian aid work?
So you can definitely look up the case. No More Deaths has a Instagram and a Twitter account. And also, I would just like to say that Scott Warren is not the only person facing prosecution in this country for being in solidarity with undocumented communities, and there's plenty of activists around the country who are fighting against their own deportations. And I really encourage folks to look up our cases on The Intercept. Has been doing really great coverage. If you want to go in depth with the cases, you can definitely look there for more information. And you'll see in a lot of the organizations and journalists and other groups that we work with in Southern Arizona that, you know, we are facing a level of repression that is being echoed in other communities and other activists are also facing. It's just part of the general reign of terror, I would say, that the Trump administration has unleashed against undocumented communities and anyone in solidarity with them.
And at the same time that this reign of terror has been going on, we've also been seeing a really wide range of different kinds of actions that folks have been undertaking in the last couple of years, from airport occupations to ICE shutdowns to all sorts of other forms of solidarity. Are there any of these tactics or groups or initiatives that you'd particularly like to highlight or let folks know about, or ideas that you have about other ways that folks can show solidarity in the places where they are?
Yeah, definitely. I think one of the interesting opportunities that the internalization of the border provides us, as police departments are deputized across the country to check immigration, as ICE is getting more strong-armed and collaborating, doing more raids, and just, you know, as the rest of the country starts to reflect a place like Arizona where a traffic stop can lead to incarceration and detention, there's also a proliferation of rapid response networks that are trying to address and trying to intervene in that point of enforcement. So I think it's really an opportunity. Anywhere there has been an increase in enforcement, there's also an opportunity to resist that enforcement in whatever way the local community finds to be most salient. And there's been just a lot of coalition and faith-based organizations who are standing up for folks in their community who are being targeted and are most vulnerable to this kind of state violence. So you don't have to be on the border to resist the border. You can definitely connect with a local group. Pretty much, you know, most places in the country, people are realizing that this is negatively impacting people they love and trying to do something about it.
I have the sense that in recent years, it's become increasingly prominent among anarchists in our sense of who we are and what it is that we're about to be thinking about fighting for a world without borders. And that while obviously that struggle is in one of the most intense ways happening for us here in the US-Mexico border, it's also something that we're seeing all over the world as so many conflicts around migration and solidarity and borders and undoing them are unfolding all over the world. So just to close, I'm wondering if you want to share any reflections about how the solidarity work that you've been involved in the US-Mexico border fits into the broader struggle for a world without borders.
Yeah, you know, before I started working on the US-Mexico border, I was definitely involved in other social movements for freedom of movement in other parts of the world, on the periphery of Fortress Europe and also in South America. And I think that at the core is people saying that there should be a right for basic dignities like the freedom of movement, freedom to flee from state or paramilitary violence, the ability to provide for one's family, the ability to seek a life where you can be sure that your kids are safe and have a place to sleep at night and are well fed. And I think that even though the specific polemics around these struggles can get framed in a local context in so many different ways, the common themes for me just have to do with acknowledging other people's humanity and being present with them and trying to create a space for, you know, a more dignified life. And for me, that's what I come back to again and again, is that we can live in a different kind of world. It takes a lot of work. And resistance is kind of something that you do every day. And so I just want to encourage people as they're waking up to or exploring for the first time the realities of the enforcement by the carceral state, that for as many ways there are for the state to incarcerate and deport and detain our friends, there are people who are trying to resist those tendencies. So I think, I don't know if we'll ever get there, but liberation is really in the process.